Lorsque vous regardez la situation du pays à la fois de façon assez basique, cette France totalement bloquée, on ne peut quasiment pas prendre le métro à Paris, un certain nombre de Français ne vont pas pouvoir prendre le train, c'est un Noël très particulier, que vous regardez également cette situation en tant qu'économiste qui a souvent conseillé des candidats à la présidentielle, qui par exemple devait avoir une proposition de réforme des retraites, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites finalement la France a un problème avec le fait de regarder en face les chiffres, ou il y a eu là une gouvernance qui a dysfonctionné du début jusqu'à la fin?
Enfin, pour faire un jeu de mots, je pense que c'est le gouvernement qui a du mal à regarder les chiffres. Parce que sur cette question des déficits du système de retraite, on parle comme si on était encore à l'époque où Michel Rocard écrivait son livre blanc sur les retraites. Il y a eu plusieurs modifications qui ont été apportées à notre régime de retraite. Celle de Balladur, celle de Fillon, celle de Woerth. Il y a eu une réforme de Marisol Touraine aussi. Et ces réformes ont produit le résultat qu'on attendait qu'elles produisent, à savoir que le régime de retraite aujourd'hui n'est plus déséquilibré. Alors on aurait pu, dès Balladur en 93, changer les choses, mais si on regarde à horizon de 2070 les prévisions que propose le COR,
le Conseil d'orientation des retraites
qui publie
régulièrement des notes prédictives, voilà. Souvent assez anxiogènes, il faut bien ce qu'il y a de l'horizon 2025.
Ça fait quelques temps qu'elles ne le sont plus anxiogènes, donc il y a eu un
la dernière l'était.
Il y en a eu en novembre, donc on va juste prendre les deux secondes de pédagogie pour expliquer la différence entre les deux. Celui de juin à horizon de 2070 montre que dans trois scénarios sur quatre, la part des retraites dans le PIB ne cesse de baisser. Aujourd'hui, il est légèrement inférieur à 14%, à 13,8%. En réalité, ce chiffre lui-même ne prend pas en compte le fait qu'à hauteur de 2 points de PIB, les retraités financent eux-mêmes leur propre système de retraite, ce qui fait qu'en termes nets, on n'est pas à 14, mais plutôt autour de 12, ce qui nous rapprocherait de la dite moyenne de l'OCDE, qui par parenthèse inclut le Chili, la Turquie et le Mexique. Donc quand on donne des comparaisons avec l'OCDE, on n'est pas tout à fait sûr que c'est ça qu'il faudrait prendre. Il faudrait comparer par exemple à ce que dépensent les Américains, tout y compris leur retraite privée en matière de pension. Mais je ferme cette parenthèse. On est donc dans un système qui était profondément déséquilibré au début des années 90, au sens où la part des retraites dans le PIB devait croître peut-être jusqu'à 20%. Enfin, je dis ça un peu au hasard, mais c'était sur une tendance totalement ascendante. Aujourd'hui, en réalité, horizon de 2070, toujours selon les prévisions de ce Conseil d'orientation des retraites, on est sur une tendance descendante. C'est-à-dire qu'on est à 14, et dans trois scénarios sur quatre, on descend vers 12 ou 13. Il y en a un où la croissance serait à 1%, où on resterait à 14. Et les prévisions qui ont été refaites en novembre confirment totalement ce diagnostic, y compris à horizon de 2025. La part des retraites dans le PIB a tendance à baisser. Bref, on n'est plus dans un âge de la réforme, au sens, il faut que les Français comprennent que 1 plus 1 font 2. Ça n'est pas ça. Quand on a quand ceux qui soutiennent ce nouveau régime à points l'ont inscrit dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, ils ont bien indiqué, et ça a été répété, et à juste titre, parce qu'encore une fois, je reviendrai sur ce prétendu déficit, la réalité n'a pas changé en 2 ans, ils ont bien indiqué qu'il ne s'agissait plus de faire une réforme pour réduire la part des retraites, mais une réforme qui vise à améliorer le bien public. En fait, le vrai point de départ de toute cette histoire est beaucoup plus simple que tout ce qu'on raconte depuis le début de cette controverse sur l'âge pivot et les régimes spéciaux. C'était de faire en sorte que les Français, alors qu'ils dépensent un peu moins de 14% du PIB en matière de retraite, se sentent enfin rassurés par ce système. En réalité, toutes ces réformes ont produit un effet totalement anxiogène chez les Français. Ils pensent tous que le régime n'est pas équilibré, qu'ils n'auront pas de retraite. C'était ça ce qui aurait dû être le point de départ. Et au lieu de ça, on a créé une anxiété nouvelle qui fait que les Français ne savent plus de quelle réforme on parle.
Avant de laisser Brice Couturier vous répondre, juste une question, là encore peut-être un peu auvergnate ou de bon sens. Comment se fait-il que la France pourrait avoir un système à l'équilibre sans travailler plus longtemps, et donc en travaillant parfois 2-3 ans de moins que la moyenne européenne, par exemple?
Mais c'est en particulier parce qu'on dépense un peu plus que les autres. Encore une fois, on est à 14 en brut, en 12 en net, les autres sont peut-être 1 ou 2 points de PIB inférieurs à ça. Et deuxièmement, et surtout, et c'est ça dont il faut en réalité parler, ce qui est prévu dans ces prévisions qui font baisser la part du PIB, c'est que l'ensemble de ces réformes, en réalité, produisent une légère baisse dans le système actuel, une légère baisse du taux de remplacement, c'est-à-dire combien vous touchez en pension relativement à ce que vous avez gagné avant, notamment à cause d'un dispositif qui est que les retraites ne sont plus indexées sur les salaires comme c'était le cas avant les réformes Balladur, elles sont en pouvoir d'achat, donc en réalité, il y a une lente paupérisation des retraités qui est inscrite. Alors que le système par points puisse aider chacun, au fond, avec un socle qui protégerait les plus vulnérables d'aller plus loin s'ils le souhaitent par rapport au système actuel. Ça, c'est très intéressant. Mais ça n'est pas la manière dont ça a été vendu. Sa manière dont ça a été vendu, c'est le système est en déséquilibre, il faut faire des réformes, il faut sauver ce système.
Mais parce qu'on apprend aussi cette semaine qu'il y a 100% d'endettement du PIB. Est-ce que vous vous situez dans une logique où on ne touche pas à ce niveau d'endettement français?
Alors, un, ça n'a pas de rapport direct, puisque dans un cas, on parle de l'État, dans l'autre, on parle de sécurité sociale, par parenthèse. Enfin, c'est des discussions à tiroir très importantes. Mais une des raisons pour lesquelles, j'y reviens quand même, en 2025, il y a un déficit des retraites, c'est que l'État décide, par exemple, de dispenser de cotisation les heures supplémentaires et il ne dédommage pas le système de retraite. Bon, c'est une part minime, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et juste une des raisons pour lesquelles, en 2025, il y a un soi-disant déficit, c'est que dans la prévision qui a été faite en novembre par le Conseil d'orientation des retraites, on fait l'hypothèse que la part des rémunérations des fonctionnaires passe de 12% à 9% à horizon 2025. C'est une hypothèse qui résulte de ce que le gouvernement lui a dit, de ce qu'il comptait faire à horizon 2025. Donc comme les fonctionnaires sont moins bien payés, ils cotisent moins et c'est ça qui crée ce déficit. C'est évidemment absurde face en réalité aux économies que l'État va faire sur les fonctionnaires de demander aux retraités de compenser en quelque sorte la fonction publique des économies qu'elle a réalisées par ailleurs. Comme la part des dépenses n'augmente pas, la bonne réponse, c'est évidemment de suppléer le manque de recettes que le gouvernement a lui-même programmé dans l'évolution des fonctionnaires. Donc tout ça pour dire, juste et finir, parce que je m'en rends compte que ça crée beaucoup de confusion, tout ça pour dire que la question centrale n'était pas, en l'occurrence pour cette réforme, de chercher à faire des économies, mais de passer d'un système qui est anxiogène pour beaucoup de gens, et de réfléchir aux raisons pour lesquelles il est anxiogène. Il y a beaucoup de polypensionnés. Bref, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne sait plus où on en est, et d'aborder cette question-là. Au lieu de ça, on a voulu, rejouer 95, rejouer les réformes Woerth et autres. Je pense que c'est un immense gâchis, pour reprendre une formule de l'économiste qui a inspiré ces réformes.
Pour vous aussi, Brice Couturier, c'est d'abord un immense gâchis, c'est d'abord une crise de gouvernance?
Non, pour moi, évidemment, c'est un blocage du pays par des syndicats extrêmement minoritaires, dans des secteurs extrêmement minoritaires, qui bloquent l'activité économique du pays, qui vont nous coûter fort cher et qui ont un effet sur la réputation internationale de notre pays qui est dramatique. Moi, j'ai pas lu les mêmes chiffres que Daniel Cohen dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites, parce que j'ai pris le scénario qui me paraît le plus probable, c'est celui d'une croissance de 1,3% sans changement législatif. D'après le COR, le déficit du système des retraites passerait de 0,3 à 0,4% du PIB autour de 2030, avant de passer dans le vert effectivement à partir de 2050. Mais donc il y a bien un déficit du régime des retraites et il fallait y mettre fin. Bon, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est une mesure de justice et d'équité. Nous avons 42 systèmes de retraite. Nous avons un système, je voudrais revenir à ce que se disait Dominique Schnapper, parce qu'il y a beaucoup de sources historiques dans ce qui nous arrive aujourd'hui. La France oscille en permanence entre une idéologie universaliste, celle de la Révolution française, celle de la loi Le Chapelier, qui met fin aux corporations, et une logique corporatiste, qui est celle de la construction de notre régime social bien avant 45, puisqu'il date en réalité de la fin du régime de Napoléon III. Le premier a commencé à mettre, pour certains secteurs extrêmement particuliers de l'activité, des régimes d'assurance sociale, et puis ça a été évidemment complété sous la Troisième République. Donc, si vous voulez, on a deux logiques de construction d'un régime social. Celui de la social-démocratie scandinave, qui est équité. Le même régime pour tous, les mêmes droits pour tous. Un point vaut un point pour tout le monde. C'est le régime suédois. Et puis vous avez le régime allemand, qui est un régime corporatiste, bismarckien, comparable au nôtre, dans lequel des secteurs d'activité, des statuts particuliers, construisent leur régime dans leur coin. Certains ont des avantages excessifs, d'autres n'ont pas d'avantages du tout et sont très maltraités. Or, le monde dans lequel nous allons entrer, nous sommes déjà entrés à cause du numérique en particulier et des plateformes, c'est un monde dans lequel le travail tel qu'on l'envisageait en 45 a disparu en réalité, sauf pour la fonction publique. C'est-à-dire exercer le même métier avec des statuts, avec des grades et des augmentations régulières des traitements, c'est un monde qui disparaît en réalité. D'ailleurs, dans la fonction publique même, il disparaît, puisque de plus en plus de gens travaillent dans la fonction publique sans sans avoir le statut de fonctionnaire, et il y en aura de plus en plus. Donc vous avez un marché du travail où la précarité est de plus en plus importante, et il fallait répondre évidemment à ces problèmes en donnant des droits particuliers, en donnant les mêmes avantages aux gens qui travaillent de temps en temps qu'à ceux qui ont un emploi à vie. Donc si vous voulez, c'est sûr que quand on passe d'un système accumulant des particularismes à un système universel, le même pour tous, il est évident qu'il va y avoir des perdants, mais aussi il va y avoir des gens qui vont en bénéficier, bien entendu. Les femmes, les précaires, les paysans, les commerçants, les artisans, les enseignants vont beaucoup bénéficier de ce système. Le problème, c'est que dans les médias en ce moment, on n'entend que les perdants du système, parce qu'évidemment, c'est eux qui ont le pouvoir de blocage formidable, puisqu'ils sont en train de bloquer en fait l'activité du pays en bloquant ses transports. Mais on n'entend pas beaucoup les autres, et je le regrette. Et puis, ça crée un climat anxiogène, parce qu'effectivement, on n'entend que les perdants, et évidemment que quand on a quand on prend sa retraite, quand les conducteurs de train prennent leur retraite 5 ou 6 ans avant les conducteurs de camions, on comprend que ils protestent parce qu'ils préféreraient évidemment garder leur statut. Ben non, on va tous devoir, enfin ceux qui ont des avantages particuliers vont devoir renoncer à une partie d'entre eux, de manière très étalée, hein, parce que les récentes réunions à Matignon ont fait que cette réforme va être terriblement étalée. Je reviens en reparler un peu plus tard. C'est le fait qu'on va tomber un autre conflit qui sera plus entre les insiders et les outsiders, mais entre la génération de baby boom qui va être formidablement protégée et les générations suivantes qui seront beaucoup moins.
Bertrand Badi, crise de gouvernance ou crise d'avenir, vous allez réagir à ce qu'a dit à l'instant Brice Couturier. C'est vrai que la presse internationale nous observe aussi beaucoup ces derniers jours, avec notamment cet article dans le Los Angeles Times. Pourquoi est-ce que ça s'appelait Les Misérables, l'article. Pourquoi les Français qui semblent avoir tout trouvent autant de sujets pour protester? Il prenait d'ailleurs cet article, la phrase du romancier français Sylvain Tesson. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer.
Oui, moi je voudrais revenir au centre même de votre question. Vous avez bien fait d'utiliser ce mot gouvernance. Peut-être pour nos auditeurs, préciser, définir ce que l'on entend par gouvernance. Comment est venue cette idée, hein? Et encore peu de temps, j'entendais un humoriste, je crois sur cette chaîne, qui disait « mais c'est pas français, on dit gouvernement ». Non, gouvernance et gouvernement, c'est différent. Pourquoi? On a voulu introduire plusieurs idées. La première idée, critique d'un pouvoir hiérarchique. C'est-à-dire que dans la société moderne et mondialisée telle qu'elle est aujourd'hui, le fait du prince ne passe plus comme mode, en tous les cas, de réforme et de transformation de la société. Faut pas oublier ça. C'est une critique du pouvoir hiérarchique. Deuxième élément, c'est réintroduire la pluralité des options. Et moi, ce qui me frappe, vous l'avez cité sous la plume d'un journaliste, je crois, il y a un instant, le slogan à la mode, c'est « il n'y a pas d'alternative ». C'est pas vraiment une mode, puisque le slogan après 40 ans, on le voit à Madame Thatcher, mais même la présidente de cette maison règle le problème difficile que connaît Radio France en disant bah, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Vous pouvez discuter, mais il n'y a pas d'alternative. Bon, ça, c'est l'anti-gouvernance absolue. C'est-à-dire, justement, il y a toujours des alternatives. Parce qu'il y a toujours des choix, et parce que c'est dans la confrontation de ces choix et de ces modèles au pluriel de réformes, que l'on peut véritablement progresser. Troisième idée qu'il y a dans la gouvernance, c'est la pluralité des décideurs. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout ne peut pas être enfermé dans la bulle politique ou parlementaire ou partisane, mais implique effectivement d'intégrer les différents acteurs concernés, de près ou de loin, dans ces grands projets de réforme. Et je dirais qu'il y a un quatrième élément qu'on ne souligne pas suffisamment, qui est l'élément de l'émotion. C'est-à-dire, la gouvernance, c'est aussi tenir compte des émotions. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien d'avoir des régimes spéciaux, mais je comprends aussi l'émotion de ceux qui ont entamé leur carrière avec cette culture du régime spécial dans lequel ils allaient s'insérer, et auquel tout d'un coup on dit, bah, écoutez, ça c'est fini. Ou c'est peut-être pas fini pour tout de suite, mais ça sera fini pour dans quelques temps. Ou ça sera fini pour vos enfants. Bon, l'élément frustration... Dominique Schnapper est une éminente sociologue qui me corrigera, l'élément de frustration est un élément extraordinairement important dans les dynamiques sociales. Je crois qu'aucun de ces quatre éléments, critique de la hiérarchie, introduction de la pluralité des options, diversification des acteurs dans le processus des négociations et intégration de l'émotion, n'a été respecté dans ce processus de réforme.
Alors,
et voilà
plus
pourquoi
loin.
Ça se passe mal.
Allons plus loin. Est-ce que c'est en effet le fait du prince, comme le disait à l'instant Bertrand Badi, ce qui nous ramène en effet à un problème de gouvernement davantage qu'un problème de gouvernance? Dominique Schnapper, c'est vrai qu'il est très étonnant, par exemple, de lire ce matin dans le journal du dimanche, à propos des crises sociales en Allemagne et des blocages en Allemagne, Le journal nous rappelle qu'il y a un an, les salariés de la Deutsche Bahn ont réussi à faire revenir la direction à la table des discussions après seulement 4 heures de blocage radical.
Oui, on parle tout le temps du fait du prince dans un pays où le pouvoir du gouvernement est de plus en plus faible. Et le pouvoir de la démocratie aujourd'hui, c'est plutôt de se demander comment on peut gouverner plutôt que de se plaindre du caractère jupitérien du gouvernement. Le malheureux, il est en face de toutes sortes d'autres pouvoirs. Je reviendrai à Tavoyo. Le peuple roi ne veut pas être gouverné et donc toute décision du prince. Et on nous dit maintenant volontiers qu'il y a deux légitimités face à face, celle de Monsieur Martinez et celle de Monsieur Macron. Alors c'est un tout petit peu inquiétant sur la conception de la démocratie, parce qu'on nous savons ce que représente Monsieur Martinez, dont la place dans la vie collective est définie par la loi. Mais je voudrais reprendre sur un mot sur les frustrations, parce que je crois que c'est un phénomène très important dans la démocratie. La démocratie donne un idéal, la liberté, l'égalité de tous les citoyens, qui évidemment n'est pas conforme à la description de la réalité. Elle est là à titre de principe et d'idéal. Et donc, par définition, c'est un système qui nourrit les frustrations et les ressentiments. Et plus la démocratie, on en reparlera sans doute à propos de Monsieur Trump, plus la démocratie s'affaiblit, plus le niveau de ressentiment et de frustration s'accroît, et plus il est difficile de gouverner ce peuple roi qui ne veut pas entendre partir. Alors là-dessus, il y a certainement eu des maladresses du gouvernement. J'avais parlé de stratégie et Daniel est revenu sous une forme plus précise. Mais étant donné la difficulté de gouverner les démocrates, je ne vois pas comment un gouvernement peut éviter un certain nombre d'erreurs de stratégie. Parce que justement, il a à répondre fondamentalement à des demandes qu'il ne peut pas satisfaire. Alors, le projet était évidemment un projet, comme l'a très bien dit Daniel, un projet d'établissement d'une égalité plus grande, puisque l'héritage de cette histoire qu'on peut faire commencer à la Roque ou qu'on peut faire commencer à la fin du 19e, les deux sont vrais, c'est de trouver une nouvelle formule. Et ça, c'est très difficile à faire passer dans la tradition française.
Daniel Cohen, ce qu'est en fond en train de nous dire Dominique Schnapper, c'est qu'il est de plus en plus compliqué de gouverner ou de diriger cette France-là. On entend les anciens présidents d'ailleurs s'exprimer ou porter un regard sur la façon dont agit aujourd'hui Emmanuel Macron. François Hollande, par exemple, s'est exprimé cette semaine pour expliquer qu'il n'était pas hostile, lui, au principe de ce nouveau régime universel, qu'il pouvait avoir son fondement, je le cite, mais qui n'avait pas été suffisamment préparé. Est-ce que vous diriez les choses dans les mêmes termes ?
Je pense que c'est quand même plus profond que ça. On est en train de parler à l'occasion de cette réforme, et on le fait ici, des mesures destinées à restaurer l'équilibre en 2025 et des régimes spéciaux. On fait une focalisation sur ces deux choses-là. Ça n'était pas les deux points de focalisation pour que ce régime aboutisse, c'était de rassurer les Français, notamment les polypensionnés. Je ne peux pas laisser Brice dire, je lis autrement le rapport que celui que j'ai fait.
Du corps,
le taux de croissance de 1,3%, c'est celui où la part des retraites dans le PIB passe de 14 à 13%. Ça veut dire que si déficit il y a, c'est pas par augmentation des dépenses, c'est par moindre cotisation. Si c'est moindre cotisation, qui a un déficit, puisque la part dans le PIB des dépenses diminue dans ce scénario-là, c'est qu'il y a moins de cotisations. Et je reprends ce que disait Bertrand. Si c'est moins de cotisations, une gouvernance juste fait que on compense ces moindres cotisations par d'autres cotisations. On réduit les dépenses quand elles sont pas contrôlées. On augmente les cotisations quand ce sont les cotisations qui baissent. Or, il y a une confusion depuis le départ. Il n'y a pas besoin d'attendre 2070. C'est ça qui se passe à horizon de 2025. Le système ne dysfonctionne plus parce qu'on dépenserait trop et toujours plus. Il dysfonctionne parce qu'il y a moins de recettes et notamment parce que ce qui est prévu, c'est que la part de la fonction publique baisse et donc les cotisations correspondantes baissent. Donc l'État fait des économies d'un côté et demande de réduire des dépenses de l'autre au moment où par ailleurs on réduit les impôts de partout. Il y a quelque chose de profondément mal pensé qui est au cœur de tous les malentendus, non pas simplement entre les cheminots et le gouvernement, mais entre ceux qui ont soutenu ce régime au départ et ceux qui aujourd'hui veulent l'appliquer. Je pense que c'est très important de le dire comme ça. Le deuxième point très important, on a dit, il est équitable parce que un point, etc., etc. Pas du tout. Et d'ailleurs, Brice, là encore, disait, c'est juste pour les enseignants. Non, ce sera juste pour les enseignants le jour où on aura pris les mesures correctrices qui permettront de faire en sorte que les enseignants ne seront pas les grands perdants. Oui, mais donc, ça veut dire...
C'est fait, non?
Ça veut dire...
Donc, c'est pas au futur, c'est au présent.
Brice, ça veut dire que l'idée seule que ce régime sans correctif serait équitable est fausse. Il n'est équitable à partir du moment où on fait les corrections. Donc ça veut dire que ce passage à un point donne le même droit partout n'est pas en soi équitable. Il ne le devient qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a des catégories importantes, les enseignants qui le soient. Une fois qu'on a dit ça, et c'est pas pour chercher la petite bête, si tout le but de la réforme qu'on fait pour les enseignants, c'est de ramener à la situation antérieure, on se demande pourquoi on fait tout ça. Et comme vous l'avez dit aussi très bien, cher Brice, ce régime peut se comprendre s'il s'agit, à l'intérieur du secteur privé, de mettre fin au fait que, d'un régime à l'autre, on ne sait plus où on en est. Mais l'idée que, par nature, la fonction publique devrait être aussi dans ce même régime pose un problème. Ça n'est pas le même contrat, en toute hypothèse, entre le public et le privé. Je reviens à mon point de départ.
Donc, pour qu'on comprenne bien la question que je vous ai posée, n'auriez pas, vous ne dites pas comme François Hollande, vous ne dites pas que le nouveau régime universel pouvait avoir son fondement.
Moi, ce que je dis, c'est que on aurait dû faire les choses, si vous me permettez de le redire en une seconde, aurait dû faire les choses de manière totalement différente. D'abord, il y a eu au début de l'année une fusion des régimes complémentaires. AGIRC et CARCO ont fusionné. Ce qui veut dire qu'il y avait manière à faire que le régime général et le régime des retraites complémentaires soient beaucoup mieux intégrés qu'ils soient, pourquoi pas autour d'un régime par points, à condition d'y apporter des correctifs pour les petites retraites, ce que le gouvernement a commencé à faire, mais de la manière la plus mauvaise possible, c'est-à-dire en mettant un couperet en dessus ou au-dessous de ce niveau, mais peu importe. Il y avait aussi à intégrer, et ça a été fait, les indépendants et les professions libérales. Ça s'est fait d'ailleurs par dérogation au régime général, parce que les indépendants ne voulaient pas être au même régime, mais il y avait manière d'intégrer. Après, il fallait s'adresser aux polypensionnés. Qu'est-ce qui restait comme polypensionnés? Ceux qui, par exemple, commencent dans la fonction publique et vont dans le privé. Ou inversement, ceux qui commencent dans le privé vont dans la fonction publique. Vous prenez un médecin, il peut commencer à l'hôpital dans la fonction publique, être libéral ensuite, et à la fin, pourquoi pas, salarié d'un groupe médical. Ça, il y avait manière de faire quelque chose, un beau paquet cadeau qui faisait qu'on créait un régime qui permette aux polypensionnés, par exemple, en fin de carrière, de choisir le meilleur des deux régimes, du public ou privé. On faisait ça, les Français applaudissaient. Et donc, régime protecteur. Ouais. Au lieu de ça, on rejoue la grève de 95 en disant « sale cheminot qui suce le sang de la nation ».
Pour qu'on comprenne bien,
on est en déficit, il est temps
qu'on comprenne bien. Cette réforme qu'on va appeler maintenant la réforme Cohen, elle aurait été à la hauteur des enjeux pour les 25 années à venir, pour l'équilibre des comptes sociaux.
Le siècle qui vient, puisque on admettait qu'il y avait un régime de général et un régime de retraite complémentaire qui avait besoin d'être intégré. On admettait qu'il y avait des carrières différentes avec les indépendants ou les professions libérales. On admettait qu'il y avait des polypensionnés qui avaient besoin de sécurité. On admettait aussi que la fonction publique ne sera jamais de même nature que le reste du secteur parce qu'il bénéficie d'un autre statut, sauf à vouloir supposer que la fonction publique est en soi illégitime. Et on réglait le cœur du problème d'une manière qui était dans l'esprit de ceux qui ont écrit ce programme, c'est-à-dire rassurer les Français sur la disponibilité d'un système de retraite qui les protège vraiment. Encore une fois, on rejoue 95, on rejoue les réformes Fillon, et on fait passer en boucle ce passage où Fillon dit, c'est bien, on va pouvoir couper les retraites à l'avenir. Parce qu'effectivement, je reprends ce que disait Bertrand, le type de gouvernance que ça augure, c'est l'État, au bout du compte, aura le dernier mot pour faire des économies. Alors que dans AGIRC-ARRCO, il y avait constamment des négociations sur est-ce qu'on augmente les cotisations, est-ce qu'on allonge la durée, est-ce qu'on réduit le point. Cet équilibre-là est perdu au nom de quelque chose de très autoritaire en réalité, qui passe outre ce que pensent les principaux supporters d'un régime par points, qui est que son grand avantage et de sortir des mesures d'âge pour aller à des mesures de vie.
Sauf que, et ce sera ma dernière question, Brice Couturier, le gouvernement dit maintenant, il le redit encore ce matin, qu'il veut bien revenir sur l'âge pivot à condition que les partenaires sociaux trouvent une autre solution ou un autre scénario pour équilibrer les comptes.
Si vous voulez, les réformes antérieures que vient de citer Daniel Cohn étaient des réformes paramétriques. Là, on est dans une réforme systémique. Il faut quand même voir les choses en face avec quelques chiffres. Moi aussi, je suis un peu économiste. Les
régimes spéciaux verse 11,5 milliards d'euros de pensions à 347 000 retraités et 135 000 pensions de reversion, soit l'État, 5,5 milliards proviennent de subventions publiques, c'est l'État qui paye pour ces régimes spéciaux. On voit bien que quand on nous dit, en 95 on nous disait les cheminots font la grève pour vous, c'est une grève par procuration, nous avons bien tous compris, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucune chance que nous puissions bénéficier des mêmes conditions de départ en retraite que les cheminots, puisque je rappelle qu'à la SNCF, selon le rapport du Sénat qui vient de sortir sur les régimes spéciaux de retraite dans le cadre du projet de loi de finances de l'année prochaine, les départs en retraite dans les régimes spéciaux est de 57 ans et 5 mois à la SNCF en moyenne en 2017 contre 62,5 ans dans le régime général. Donc on ne peut pas faire bénéficier tous les Français de ces avantages très particuliers.
Qui le demande, Brice, qui le demande?
Ben, les syndicats qui sont dans la rue, je ne comprends pas pourquoi ils manifestent si ce n'est pas pour ça. Et je les comprends. Comme vous le disiez tout à l'heure, Daniel Cohen, des gens ont signé des contrats qui leur disaient vous avez des droits très particuliers et du coup vous avez signé là pour ces droits-là.
Bon, mais vous n'avez pas échappé juste
qu'on le retire, ils ne sont pas contents.
Mais on laisse finir Brice Coquerel, puis vous pourrez répondre.
Les transporteurs routiers, les camionneurs qui, eux, partent en retraite à 62 ans, comprennent mal pourquoi les conducteurs de train partiraient, eux, 5 ans plus tôt. On a entendu beaucoup les critiques de gauche sur les médias ces derniers temps, et on vient de l'entendre à nouveau. Mais moi, je voudrais faire aussi entendre les critiques de droite, parce qu'on les entend peu. Et ils disent des choses assez intéressantes. Prenez Damien Abad, le président LR de l'Assemblée nationale, il a dit tout récemment, il est impossible de prôner l'équilibre des retraites sans assumer clairement une mesure d'âge. Nicolas Bavraise écrit « Cette demi-mesure, l'âge pivot de 64 ans, qui est donc tant contesté aujourd'hui dans les médias, ne permet pas, contrairement au relèvement de l'âge légal de départ en retraite, de rétablir l'équilibre financier des retraites. » Et le même Bavraise, qui n'est pas un imbécile, a calculé que, d'après lui, en fonction des réformes qui sont en train d'être négociées à Matignon, le montant des retraites, qui est aujourd'hui de 13,8% du PIB, va passer à 15% du PIB. Ce qui veut dire qu'elles vont devenir relativement insoutenables et qu'on risque à terme une révolte des jeunes générations contre les baby-boomers qui vont dire qu'on ne peut plus payer, c'est trop cher. Le rapport démographique et le rapport financier entre les actifs et les pensionnés va devenir insoutenable. Donc il aurait été souhaitable de faire quelques économies. Elles ne sont pas sur la table pour l'instant. Donc la critique qu'on adresse à ce gouvernement en disant qu'il manque de générosité, moi je ferais plutôt la critique inverse, c'est qu'il est un peu trop généreux.
Manque de générosité ou pas si générosité?
Pardon, juste deux choses. Je ne sais pas d'où ce chiffre de 15% sort, puisque aucune des prévisions du COR ne l'indique. Les prévisions du COR, encore une fois, il y en a une à 1% de croissance où on resterait à 14%, et toutes les autres le font en réalité baisser. Donc on peut toujours se faire peur en disant le système explose, mais ça n'est pas le cas. Et donc les termes mêmes dans lesquels cette discussion est engagée montrent bien que le gouvernement a raté son coup, puisqu'il le fait vivre sur le mode anxiogène, nous allons sauver les retraites alors qu'elles sont déjà sauvées et qu'il s'agissait de les réaménager de manière à leur donner plus de protection. C'est le premier point. Le deuxième point qui est quand même très très important. Si toute cette histoire, c'est pour faire rendre gorge aux régimes spéciaux, puisque tous les autres, en réalité, il faut les compenser. On a compensé les policiers, on va compenser les enseignants. Si toute cette histoire, c'est rejouer 95, alors qu'on ne parle pas d'un régime...
5,5 milliards, c'est toujours bien.
Juste un tout petit point. 5,5 milliards, c'est... en ne prenant pas en compte le fait qu'il y a un déséquilibre démographique très important, et c'est ne pas prendre en compte aussi le fait qu'au début de l'année, les cheminots ont renoncé pour les nouveaux entrants à leur statut, que l'année prochaine, ils vont être ouverts à la concurrence. Donc, en réalité, la question de la SNCF était réglée au début de l'année. Donc, le gouvernement, de manière totalement bizarre, rejoue 95 comme s'il y avait une revanche à prendre, alors même que pour les cheminots, ça n'était plus de nécessité, que ça n'est pas de nécessité du point de vue de l'équilibre budgétaire de long terme, puisque ces 15% sont complètement fantaisistes, et qu'il est obligé de compenser les enseignants d'une réforme dont il disait qu'elle était juste. Donc je suis désolé, mais le point de départ était nous allons enfin profiter des ajustements qui sont faits pour rassurer les Français sur leur point de retraite, et en réalité on les inquiète en faisant croire que le régime est déséquilibré, on recrée une lutte entre ces malheureux cheminots qui vont peut-être l'année prochaine travailler pour d'autres sociétés que celles pour lesquelles ils ont été embauchés, et à qui on explique que ce sont les rentiers de la République. Je suis désolé, je comprends l'agacement de toutes ces populations quand on leur dit que c'est au nom de la justice immanente que ce régime par points produirait, alors que l'application montre de partout qu'il n'est pas équitable, puisqu'il faut de partout le corriger.
Allez.